Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver, c'est à vous pour vous accompagner ce soir jusqu'à 20h55 avec l'équipe du vendredi, autrement dit une équipe 100% masculine. Salut à tous les quatre.
Bonsoir, ma bête.
Oui, je le fais remarquer. Non pas pour que ça change, hein, juste pour marquer le coup. Mohamed, votre story... Mohamed, votre story ce soir.
Je vous parle ce soir d'un ballon chinois qui survole actuellement les États-Unis. Les Chinois parlent d'une expérience météorologique. Les Américains parlent d'espionnage. Je vous raconte tout ce soir.
Patrick, votre édito.
Le mal-être au travail ou le bien-être est la retraite idéale des Français.
Voilà. Ils sont tôt au travail, les Français, et pourtant, ils ne veulent pas travailler plus longtemps.
Alors, vous avez tout défloré.
C'est une sorte de schizophrénie, voilà, dont on parle ce soir avec François Langlais, journaliste économique à TF1, LCI et RTL. Bonsoir, cher
Bonsoir.
François. Merci de votre présence ce soir. Et puis, on parle de la fâcherie entre Charles III, qui sera couronné le 6 mai prochain, et Harry, fâché au point de devoir appeler à la rescousse le plus haut représentant de l'Église anglicane, voilà, chargé de jouer les médiateurs. On en parle avec Jérôme Caron, grand reporter en magazine Point de vue, spécialiste de la monarchie britannique. Mathieu dans le 5 sur 5.
L'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui parle très librement de son alopécie, une maladie qui touche 60 à 120 000 Français chaque année. On va l'écouter puis parler de l'alopécie justement.
Hommage à Georges Simenon ce soir, l'un des auteurs les plus lus dans le monde. Il est né il y a 120 ans. On se souvient forcément de son grand Maigret incarné par d'immenses acteurs Gabin, Depardieu, Crémer. On en parle avec nos invités juste après 20h. Et Simenon est dans votre œil aussi ce soir, Pierre.
Effectivement, je reviendrai sur le 13e Festival de Cannes en 1960. Le président du jury, c'était lui, l'homme à la pipe. Et il s'est battu comme un beau diable. Et il a réussi pour que la Dolce Vita de Fellini ait la Palme d'Or.
Voilà pour le programme. On commence tout de suite, sans attendre, avec l'édito de Patrick Cohen. Des Français malheureux au travail et pressés de se reposer, voilà qui expliquerait le refus de la retraite à 64 ans. Vous dites, Patrick, que c'est une idée reçue.
Oui, l'opposition est massive, la colère est réelle contre cette réforme, mais non, contrairement aux paroles entendues souvent dans les cortèges ou prononcés par les opposants politiques et syndicaux, le travail n'est pas unanimement vécu comme une servitude ou un fardeau qu'il faudrait à tout prix alléger. Il n'y a pas de mal-être généralisé ni de grande démission. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par l'Institut Montaigne auprès d'un gros échantillon, 5000 personnes en âge de travailler et ayant un emploi.
Que dit cette étude ?
Que les Français, dans leur grande majorité, sont heureux au travail et qu'ils ne sont pas devenus paresseux. On a 77% d'actifs satisfaits de leur emploi, ou plus exactement, qui sur une échelle de 1 à 10 expriment un degré de satisfaction supérieur ou égal à 6. Et plus encore chez les indépendants, 84% que chez les salariés. Satisfaits de ce qu'ils font, de leur mission, des relations avec leurs collègues et de leur durée de travail, pas loin de 40 heures par semaine en moyenne, même si près d'un tiers des salariés à temps plein, 31%, se disent prêts à travailler plus pour gagner plus.
Bah oui, parce qu'ils aimeraient un meilleur salaire.
Voilà, c'est le principal motif d'insatisfaction. Sans surprise, le niveau de rémunération pour 46%, quasi à égalité avec le manque de perspective de carrière. 41%.
Et vous disiez donc pas d'épidémie de flemme.
L'étude fait remarquer que la durée annuelle du travail est stable depuis 20 ans. Les Français ne veulent pas travailler moins, ils veulent travailler autrement, avec davantage de télétravail, souhait exprimé par la moitié des salariés. La crise Covid a bouleversé les attentes et les pratiques. Songez que les heures de bureau habituelles du style 9h-18h sont devenues minoritaires chez les salariés. C'est ce qui m'a le plus frappé dans cette étude. Ils ne sont plus que 40% à se rendre au travail le matin pour en sortir le soir.
Pour autant, les Français refusent de travailler plus vieux. Dans cette étude, seuls 7% des actifs trouvent que l'âge légal de 62 ans n'est pas assez élevé. Quelle serait alors leur retraite idéale ?
Celle qui les laisserait libres d'arrêter quand ils le veulent, à leur rythme. 20% voudraient aménager leur fin de carrière en travaillant moins, en temps partiel, même avec un plus petit salaire. C'est la retraite progressive, déjà possible pour les plus de 60 ans, et qui pourrait s'ouvrir aux enseignants, a dit hier le ministre Pam Ndiaye. Et près de la moitié des salariés, 44%, aimeraient pouvoir partir de façon anticipée, disent-ils, quitte à toucher une pension réduite.
Ça s'appelle une retraite à la carte.
Exactement,
quoi.
Pas très loin de celle qu'on a failli avoir. Vous vous souvenez du défunt système universel à points qui, dans son principe, correspondait à cette aspiration, dans son principe, mais le gouvernement d'Édouard Philippe y avait ajouté un âge pivot devenu âge d'équilibre qui devait atteindre 64 ans d'ailleurs en 2027 et qui a cristallisé les oppositions à cette réforme-là. Bah tiens, voilà une idée pour un exécutif en but désormais à un mur d'opposition, remettre sur le tapis la précédente réforme déjà votée par l'Assemblée nationale. Vous savez ce qu'on fête ces jours-ci ?
Non.
Le 30e anniversaire de la sortie d'un jour sans fin.
Le jour de la marmotte.
Debout les campeurs et haut les cœurs et mettez les hauts bottes parce que vous savez que ça va cailler.
Avec Bill Murray. Ah, c'est fini. Ah, pardon, j'étais peu habituée à ce que l'édito se termine sur une reconstitution.
Du jour sans fin, du jour de la marmotte.
Avec Bill Murray.
C'est les 30 ans.
François Langlais, est-ce qu'il y a une sorte de schizophrénie sociale des Français qui sont heureux au travail mais qui ne veulent pas travailler plus longtemps, plus vieux?
Oui, je crois. Alors, c'est une schizophrénie. Il y a certains éléments qui permettent de réconcilier les deux dans cette étude qui est passionnante. Hein. Notamment le fait que les Français ressentent malgré tout une intensification des cadences depuis quelques années. Ça s'explique probablement, c'est paradoxal, mais par les 35 heures. En gros, la charge de boulot n'a pas changé, mais on l'a fait sur une durée plus courte. Et peut-être aussi par le télétravail. J'étais frappé aussi dans cette étude par le nombre de Français qui télétravaillent. On est à un tiers qui travaille un ou deux jours par semaine chez eux, c'est considérable. Ça. On sait bien que c'est une liberté, parce que c'est moins de transport en commun, mais en même temps, c'est aussi une forme de servitude, parce que vous avez plus de mal à faire, marquer, matérialiser la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle.
Certitude, ceux qui revendiquent le droit à la paresse sont clairement minoritaires.
Oui, bien sûr. C'est un fantasme de bobo, bien sûr. Et même les gens qui ont des travaux pénibles ne sont pas dans cette logique-là. Et ils regrettent que leur travail soit pénible, évidemment. Pour autant, n'oublions pas une chose, et c'est ce que révèle cette étude, c'est que le travail, c'est d'abord une existence sociale, c'est évidemment pas la seule raison de vivre, loin s'en faut, mais c'est aussi des collègues, c'est des rencontres. Il y a bon nombre de salariés qui rencontrent leur conjoint au travail quand ils sont jeunes. Et enfin, tout ça, c'est une partie importante de la vie. Et les gens ne seraient pas prêts à y retourner. Regardez la souffrance. La souffrance que représente le fait d'être privé de travail. Les chômeurs qui subissent ça, mais ils sont en déshérence, ils sont malades. Demandez aux médecins. Le contre-coup du chômage subi à 45, 50 ans, quand les perspectives de retrouver un travail s'amenuisent, mais les gens non seulement dépriment, mais voient leur santé se détériorer. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais on devrait. Alors, il ne faut pas oublier ceux qui sont abîmés par le travail, évidemment. Mais c'est pour dire que finalement, le tableau est, comme vous le dites, beaucoup plus contrasté qu'on ne l'entend dans les cortèges.
Et sur la retraite idéale, est-ce que vous n'avez pas été frappé aussi par cette aspiration à la liberté qui se heurte à la borne d'âge, à cet âge légal qui est l'âge d'ouverture, l'âge minimal d'ouverture des droits pour une retraite à taux plein, et qui est un des piliers de l'équilibre du système. Elisabeth Borne a employé encore cet argument hier soir. Elle était interviewée sur France 2 en disant « si on enlève l'âge légal, il faudrait 45% de cotisation pour tout le monde ». Et je crois que les études disent à peu près ça. Et il y a une incompréhension à l'égard de la nécessité d'avoir un âge légal et un âge sans décote, au fond.
Bien sûr, parce que au fond, on peut penser que la réforme, dans son principe, est juste. C'est juste de ne pas laisser s'accumuler des déficits, de ne pas laisser ça sur la tête des gens qui vont arriver demain, sur le principe. Mais ils ont choisi l'instrument le moins juste, qui est celui de l'âge légal. Parce que vous savez qu'il y a des différences d'espérance de vie qui sont importantes en fonction du travail qu'on fait, en fonction du milieu socio-économique. Ça dépend de la prévention, de l'accès à la santé, de l'alimentation. Enfin, l'espérance de vie, c'est la résultante de beaucoup de facteurs. Mais en gros, si on caricature, quand on est d'un milieu social défavorisé, on a une espérance de vie plus courte que d'un milieu favorisé. Il y a des exceptions.
Jusqu'à 7 ans d'écart.
Et donc c'est substantiel. L'âge légal consacre ces différences. Il les exalte. Parce que ça veut dire que vous devez, de toute façon, même si vous avez une espérance de vie plus courte et une carrière plus longue, vous devez attendre cet âge fatal et vous y arrivez exténué. Alors que celui qui commence à travailler plus tard parce qu'il a eu des études plus longues, bah, il y arrive, j'allais dire, les doigts dans le nez.
Donc, ouais, le système le plus égalitaire, ça aurait été l'allongement des cotisations.
Bien sûr. Alors, voilà. En même temps, et c'est là où ça croise ce que disait Elisabeth Borne. Ce qu'il y a de plus inégalitaire, c'est aussi ce qui rapporte le plus d'argent, mécaniquement. Hein. Parce que vous attrapez dans les filets des gens qui ne devraient pas y être et qui, de fait, contribuent à la marge du système. Et j'ajoute, et je pense que c'est l'argument déterminant, c'est qu'un âge légal, c'est un chiffre simple. 64 ans, c'est un symbole. Il y a une raison politique pour laquelle ils ont choisi l'âge légal. C'est pour pouvoir dire, voilà, cette réforme, on l'a faite, c'est 64 ans, ça restera dans l'histoire des réformes de la retraite qui durent depuis Robert Boulin. Balladur, Fillon, hein, Macron, 64 ans. Vis-à-vis de l'extérieur, des gens qui scrutent les finances de la France, c'est aussi plus facile à comprendre. Ça veut dire ils ont vraiment fait la réforme, même s'il y a des dispositifs qui permettent d'y échapper en partie.
Hier, Elisabeth Borne, une nouvelle fois, était sur France 2, en tout cas, était à la défense de cette réforme, indispensable selon elle, ce qui n'a pas empêché, après son intervention, les critiques, notamment celle de Laurent Berger, le leader de la CFDT.
Demander aux Français de travailler progressivement plus longtemps, c'est un effort, et je mesure ce que ça représente pour beaucoup de Français. Mais ma responsabilité, c'est aussi de dire la vérité aux Français, de dire que si on ne fait pas cette réforme des retraites, c'est notre système par répartition qui ne tiendra pas. C'est indispensable de mener une réforme pour préserver notre système de retraite par répartition.
C'est de travail dont il aurait fallu parler ce soir pour montrer un minimum d'empathie avec ceux et celles qui aujourd'hui sont en désaccord.
Ça manque d'empathie ce qu'a dit la Première ministre, ce que vous dites
ce soir.
En tout
cas, c'est pas la prise en compte. On a l'impression qu'il n'y a pas en ce moment un mouvement social dans ce pays. C'est ça qui est un peu interrogeant finalement.
Le gouvernement et Elisabeth Borne manquent d'empathie.
En tout cas, la phase de concertation a été tardive et partielle, hein, puisque d'entrée, il était exclu qu'on change cet âge légal. Donc, on négocie sur les à-côtés. De ce point de vue, c'est un manque d'empathie, certainement, ou un manque d'attention aux partenaires sociaux. Alors, évidemment, le gouvernement vous dit « mais les partenaires sociaux ne voulaient pas de cette réforme, donc nous n'avions pas d'interlocuteur ». C'est un peu facile. C'est vrai qu'il y a toujours un point commun et que là, cette fois-ci, on ne l'a pas trouvé.
Ça sert encore de faire de la pédagogie, là, comme le fait Elisabeth Borne ?
Je pense que c'est raté, cette phase-là. C'est raté parce que c'était implicite dans l'édito de Patrick. C'est-à-dire qu'on a vu... ça fait 6 ans que Macron nous parle de retraite. 6 ans avec 3 projets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le premier... campagne électorale 2017, c'était « il n'y a pas de problème financier, on fait la réforme à point ». Le second, 2019, on fait la réforme à point, mais il y a un problème financier, donc on allonge la durée de carrière. Et puis le troisième, il y a un vrai problème financier, on ne fait plus le système à point. La pédagogie, comment voulez-vous qu'elle porte ? Alors que tous les arguments évoqués aujourd'hui par Mme Borne ont été contredits à un moment donné, dans les 6 dernières années, par Emmanuel Macron lui-même. Donc... j'allais dire, le citoyen de bonne foi se dit, y a un loup. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles on nous présente cette réforme, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, hein, je pense que l'enjeu, c'est bien l'avenir du système de répartition. Mais je comprends très bien qu'on ne puisse pas y croire parce que les discours successifs et contradictoires s'annulent.
Elle a d'ailleurs reconnu hier, sur une question de Caroline Roux, que la réforme qu'elle proposait aujourd'hui, qu'elle présente aujourd'hui, était moins ambitieuse. Enfin, elle a approuvé, c'était un propos d'Édouard Philippe qu'elle a approuvé, que la réforme était moins ambitieuse que celle qui avait été portée en 2019.
C'est vrai. C'est vrai. La difficulté de celle de 2019, c'est que finalement, personne n'était capable de savoir exactement ce que ça allait donner pour sa situation personnelle. Hein. Et que le gouvernement lui-même y est allé à fleur au fusil. Visiblement, ils ont fait ça sur un coin de table sans étude d'impact. Quoi, hein. Mais c'est vrai qu'elle était objectivement plus ambitieuse. Et puis, elle pouvait plus facilement avoir à bord la CFDT qui, elle, milite depuis toujours pour la réforme.
Il y avait une étude d'impact, je m'en souviens, elle faisait 1000 pages.
Oui, elle était inintelligible. C'est ça.
Quel argument il aurait fallu déployer pour convaincre les Français ? Est-ce qu'il y en avait un ?
Il y en a un, à mon avis un seul, qui a été utilisé très tardivement, c'est la démographie. C'est que ce système, vous avez d'un côté des cotisants, de l'autre côté des pensionnés, et que le rapport entre l'un et l'autre se détériore de façon continue et va probablement continuer à se détériorer. Après, si on laisse ça comme ça, bon, bah, y a le déficit, ok, on se dit on s'en fout, il faut prendre l'argent là où il est, etc. D'accord. Mais la réalité, c'est que petit à petit, vous faites le lit d'un système de capitalisation individuelle qui est au fond assez inégalitaire, parce qu'il ne permet pas la redistribution, contrairement à la répartition. Aujourd'hui, notre système de répartition, il est très redistributif. Les riches payent plus que les pauvres. C'est logique. Et le taux de remplacement, c'est-à-dire la proportion que représente leur pension par rapport à leur ancien salaire, elle est plus faible. Hein. Et c'est logique. Mais dans un système de capitalisation, bah, c'est pas comme ça. Hein. Vous retrouvez en gros ce que vous avez mis. Donc celui qui peut mettre beaucoup, il retrouve beaucoup. Celui qui peut mettre modestement, regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Les pensions sont amenuisées justement par tout ça, quoi.
Il y a beaucoup de mécontents vis-à-vis de cette réforme, mais il y a une génération qui n'est pas à plaindre, c'est celle des baby-boomers.
Oui.
Alors eux,
c'est une longue histoire, ça.
Il y a eu un alignement de planètes tout au long de leur existence, quoi.
Oui, c'est singulier. Et c'est que quand ils arrivent sur le marché du travail dans les années 60, 70, plein emploi. Quand ils ont l'âge, qu'ils ont 3 sous de côté, qu'ils ont l'âge de se constituer un patrimoine immobilier en achetant leur maison, ils remboursent en monnaie de singe grâce à l'inflation. Et puis, quand ils arrivent à l'âge de la retraite, ils arrivent au zénith des systèmes de redistribution. Hein. Et aujourd'hui, il y a des études très intéressantes qui ont été faites par l'INSEE qui montrent que les 60-69 ans, précisément les baby-boomers, qui sont ceux qui ont profité d'une carrière complète, parce que les gens de 85 ans, ils n'ont pas cotisé pendant toute leur vie, mais 60-69, ils ont cotisé, le taux de pauvreté de cette génération est le plus faible de toutes les générations.
Donc, il faudrait les taxer.
Alors,
il faudrait leur demander de contribuer.
L'honnêteté oblige à dire que c'est quand même ce qu'a fait Macron quand il est arrivé. Souvenez-vous, avec la CSG pour les retraites les plus élevées, au-dessus de 2000 euros, si ma mémoire est bonne. Donc, c'était une thèse qu'il développait avant d'être président, hein, l'équilibre entre générations et tout. Mais et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, les taux de pauvreté chez les jeunes, 18-24, ils sont 3 fois supérieurs à celui des 60-69 ans. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les vieux sont moins pauvres que les jeunes. Bon, c'est très bien pour eux, hein, mais simplement, ça résume cette trajectoire éblouissante de cette génération qui, à chaque fois qu'elle passait, voyait les portes s'ouvrir et des gens avec des colliers de fleurs, j'exagère. Mais par rapport aux générations d'avant qui avaient connu la guerre, bon, c'était pas drôle. Aux générations d'après qui ont connu le chômage de masse, c'était pas drôle non plus, eux. Ils sont
passés entre les gouttes.
On reste dans les questions de travail. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, a annoncé cette semaine l'expérimentation de la semaine de 4 jours dans un URSSAF de Picardie. Les salariés y travailleront 36 heures par semaine. En octobre 2021, Louis Amar et Camille Schmitt s'étaient rendus dans une entreprise informatique lyonnaise qui avait décidé de passer à 4 jours, elle aussi, mais en 32 heures hebdomadaires. Voilà ce qu'en disaient les salariés.
On pose mieux, on mange aussi plus sainement parce que justement on a le temps de penser à d'autres choses. Après, niveau travail, du coup, vu qu'on est plus reposé, ça nous permet d'être un peu plus performant également.
Alors, j'emmène mes enfants au foot et au tennis et je m'occupe d'eux, ce que je ne pouvais pas faire avant. Vu qu'on a un jour, on peut se reposer au milieu de la semaine, à la fin de la semaine, on est à nouveau en forme et on peut continuer comme en début de semaine, quoi.
Plein de petites choses qu'on n'avait pas le temps de la semaine ou que certains services sont fermés le week-end ou des choses comme ça qu'on peut faire maintenant. On peut se réserver un jour par semaine pour le faire.
Voilà, c'était en 2021, tout le monde avait encore un masque. Mais c'est une hypothèse de travail ?
Oui, je pense qu'on y viendra pourvu qu'on évite le travers qui avait été celui des 35 heures il y a 20 ans, qui est le t-shirt à taille unique pour tout le monde. Parce qu'il y a des boîtes où c'est formidable et où bon, ça correspond à la fois aux nécessités de l'entreprise, au rythme de vie des salariés. Il y a des boîtes où c'est plus compliqué. Et il faut pouvoir donner cette souplesse-là aux entreprises, qu'elles s'organisent comme elles l'entendent. Alors, dans le cadre d'une loi générale qui protège tout le monde, hein, je veux dire, c'est pas la déréglementation, mais ce que je veux dire, c'est que la réduction de travail uniforme et décidée par l'État, ça se paye quand même, surtout dans les années où la productivité est plus faible, comme en ce moment, en général, ça se paye par moins de croissance. Donc, bienvenue à la semaine de 4 jours, mais respectons la diversité. Et vous savez, ça me fait penser à... Il y a un texte de Keynes qui a été écrit en 1930, ça s'appelle « Lettre à mes petits-enfants ». Alors donc, il est très optimiste, hein, sur l'avenir. Et il parle du temps de travail et il dit « En 2030, on n'est pas très loin. Probablement grâce au progrès scientifique, c'est une période très noire, hein, 30. Donc pour être positif à cette époque-là, il fallait être vraiment contrariant. Mais grâce au progrès scientifique, probablement il suffira de 3 heures par jour pour contenter le vieil Adam en nous. Adam jeté du paradis et contraint à travailler, bien sûr. Et c'est un mouvement séculaire, quoi, que celui de la diminution du temps de travail, qui a permis à la fois de justement rendre la vie plus facile, puis d'augmenter les salaires aussi grâce à la productivité, quoi.
Vous avez publié en octobre dernier « Rien ne va, mais 2023, l'année qui peut nous sauver ». Alors, il y a les tensions autour de la réforme des retraites, l'inflation et les inquiétudes sur la guerre en Ukraine. Vous pensez toujours, François Langlais, que les 11 mois à venir peuvent encore nous permettre d'être optimistes ?
Plus que jamais, je pense qu'on est dans une phase de transition, comme il s'en produit dans l'histoire économique une ou deux par siècle, pas plus, et que tout bouge en même temps. Et que c'est l'occasion de conflits géopolitiques et d'une mondialisation qui se fragmente, hein. C'est difficile. Ça nous semble contraire à nos habitudes parce qu'on sort de 40 ans très différentes. Mais en fait, c'est ces 40 ans qui étaient complètement atypiques. C'était une parenthèse de calme géopolitique dominée par une seule puissance. C'est ça qui a d'ailleurs permis la mondialisation. Il n'y a pas de mondialisation sans hyperpuissance. Parce que c'est elle qui fait la police, qui a une monnaie mondiale, le dollar, qui définit les règles internationales. Et là, tout le monde sent bien que cette hyperpuissance est sur le déclin. Du coup, tous les méchants se réveillent, hein, Poutine, Erdogan, etc. Mais si on se fie à ce que nous apprend l'histoire, en général, derrière ces phases de friction où le monde se réorganise, il y a une longue période de croissance. Alors, est-ce que ça sera 2023 pile, ou 24 ou 25, je ne sais pas. Mais je pense, et c'est la thèse de ce livre, qu'il y a des pousses vertes et qu'on les voit déjà.
2023, rien à voir, hein. Mais c'est l'année du couronnement de Charles III. Ce sera le 6 mai prochain, un événement qui ne doit en aucun cas être pollué par des querelles familiales ou les dommages collatéraux du best-seller choc signé du prince Harry. C'est une famille unie, famille royale unie, qui doit se présenter au balcon de Buckingham Palace, quitte à faire appel à un médiateur pour réconcilier et le père et le fils.
On the 6th of May 2023, the coronation of King Charles III will take place.
Set to be a three-day extravaganza with pageantry, street parties and a concert at Windsor Castle. But what role will Prince Harry and Meghan play?
If you're invited to the coronation, will you come?
There's a lot that can happen between now and then. But, you know, the door is always open. The ball is in their court. There's a lot to be discussed, and I really hope that they are willing to sit down and talk about it.
King Charles, in particular, was prepared to consider reconciliation before the coronation in May.
But what Charles will not want, really won't want, is estrangement from his son forever and any kind of major overshadowing of the coronation.
The Archbishop of Canterbury, Justin Welby, has apparently got involved and been asked to become sort of a conduit, a peacemaker.
We call on the superstar, the superhero.
Bonsoir Jérôme Caron.
Bonsoir.
Grand reporter au magazine Point de vue. On est à ce point de guerre froide qu'il faille faire appel aux plus hauts dignitaires de l'Église anglicane pour jouer les intercesseurs.
Disons qu'il y a eu tellement de rancœurs accumulées, de pression, de cristallisation des deux côtés de l'Atlantique qu'en fait le roi Charles a jugé utile d'avoir quelqu'un le plus neutre possible. On sait que Justin Welby communique régulièrement avec le prince Harry.
Il les a mariés, il a baptisé
Archie, le fils aîné du prince. Ah. Il téléphone régulièrement au couple. Il a aussi de très bonnes relations avec le prince William. Donc, quelque part, dans la situation impossible dans laquelle est le roi Charles, entre ses deux frères qui ont énormément de mal à se parler, et tout au moins ont énormément de mal à rester l'un à côté de l'autre, ce couronnement qui arrive, qui nécessite quand même de présenter une famille la plus unie possible, même si tout le monde sait que derrière, les couteaux peuvent être sortis, mais il faut quand même que l'image soit belle. Donc, voilà, on envoie, pas au casse-pipe, mais dans cette mission diplomatique assez curieuse, cet archevêque qui est assez étonnant lui-même.
Avant de parler de l'archevêque, qui a un profil assez atypique, ce que craint Charles, c'est que, en gros, l'absence d'Harry lui vole la vedette, quoi.
Ce qu'il craint, c'est que l'image d'Harry ou que l'action ou la non-action d'Harry finisse par prendre plus de place que son propre couronnement. C'est la grande peur, puisque régulièrement, lorsqu'il y a une activité royale, curieusement, le couple publie un livre, fait une déclaration, envoie une photo des petits derniers. Enfin voilà, il y a souvent cette concomitance
brouille
de temps.
Brouille un peu l'écoute, quoi.
Voilà. Et en fait, à Buckingham, ils se disent, il fera plus de bruit en étant absent qu'en étant présent. en étant présent quelque part, on peut le mettre dans la foule, pas forcément au premier rang, pas forcément au dernier, mais suffisamment près pour qu'il ait l'impression d'être intégré et pas trop loin pour qu'en même temps il soit pas suffisamment menaçant quelque part. La terreur de William, par exemple, c'est que d'avoir une discussion avec son frère et que tout se retrouve soit dans un podcast, soit sur Netflix, soit dans un livre. Il y a cette peur-là aussi aujourd'hui, oui, puisqu'il a tout déballé sur son pages, totalement justifié. Donc il y a un espèce... En même temps, on doit faire avec lui, on n'a pas forcément envie de faire avec, mais on n'a pas vraiment le choix non plus.
Pourquoi on n'a pas le choix ?
Parce que ça reste un frère, ça reste un fils, ça reste un gamin malheureux, dont on l'a tous, enfin les gens qui ont vu le livre constatent que c'est vraiment quelqu'un qui a énormément souffert, qui a été extrêmement traumatisé par la perte extrêmement brutale de sa mère. Et donc voilà, on ne peut pas quand même totalement l'exclure du système.
Comment est-ce qu'on peut dresser le portrait robot de ce missionnaire, quoi, de
Justin
l'impossible,
Welby.
Justin Welby.
Voilà. Justin Welby, c'est un. Alors Justin Welby, il a d'abord, il a découvert que son père n'était pas son père assez tardivement. Sa mère était l'une des secrétaires de Winston Churchill. Elle l'a quitté en 1955 pour se marier avec Kevin Welby. Et puis on s'est aperçu beaucoup plus tard qu'en fait, elle avait une relation avec un autre secrétaire particulier de Winston. Donc Justin Welby l'a pris assez tard. Il a commencé sa carrière dans le pétrole. Il a travaillé pour Elf Aquitaine en France pendant 5 ans. Ensuite, il a travaillé à Londres, aussi toujours dans le pétrole, et en 1992, révélation, Dieu m'appelle, il commence des études de théologie qui durent une dizaine d'années. Il finit par être ordonné. Alors la première fois, on lui a dit non, puis la deuxième fois, on lui a dit oui. Et puis à son plus grand étonnement, quelque part, il a fait partie des sélectionnés pour devenir l'archevêque de Canterbury, qui est le plus ancien évêché de Grande-Bretagne, et quelque part, qui est le plus prestigieux et qui fait de lui, après le roi, le personnage, le représentant de Dieu le plus important dans le royaume.
Il a des idées progressistes et c'est aussi ça qui pourrait plaire à Harry et Meghan.
Alors, ce qui semble faciliter en effet la relation, c'est qu'il s'est prononcé pour l'ordination des femmes, il se prononce pour le crédit universel, il se prononce pour les réfugiés, il a régulièrement reçu des gens LGBTQ+, donc c'est quelqu'un d'assez ouvert, qui n'est pas fermé. Il a eu une très bonne relation avec Harry et Meghan, puisqu'il a expliqué, enfin, il a réussi, à, eux avaient expliqué dans leur interview d'Oprah Winfrey qu'ils avaient eu un mariage personnel à eux. Lui a juste repris la main en expliquant que ça avait été une union civile, qu'il était présent. Comme ça, il ne le défausse pas tout en rétablissant la vérité. Donc, il a un bon équilibre de diplomatie.
Et ça se passe comment, pardon, mais en coulisses, c'est des appels, où va y avoir une réunion avec d'un côté Charles et William, de l'autre Harry et Meghan.
C'est comme en politique. On sait pas vraiment. On sait que les coups de fil sont échangés, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils se disent entre eux. On peut supposer, en effet, que l'archevêque va appeler l'un et puis l'autre, et puis faire un rapport au roi, puis avancer pas à pas. La question, elle va être protocolaire, elle va être en termes d'uniforme, elle va être en termes de titre aussi, parce que certaines...
Présent ou pas au balcon,
présent ou pas au balcon. Alors la stratégie de Buckingham dans ces cas-là, c'est de rien dire tout en faisant croire qu'il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que seuls les membres actifs seront au balcon. Alors, membres actifs, ça veut absolument tout dire et rien dire. Officiellement, ils ne sont plus membres actifs, mais ils sont membres quand même de la famille royale. Donc ça permet d'attendre, ça va se négocier au dernier moment. L'idée, le rêve de Charles, semble-t-il, c'est que la présence de son fils soit suffisamment canalisée et scénarisée pour éviter tout débordement médiatique qui ferait de l'ombre à son couronnement.
Des rumeurs disent que des télévisions américaines ont proposé à Harry de commenter l'événement en direct pour plusieurs millions d'euros.
4 millions et demi.
Donc c'est une rumeur
C'est une rumeur, on parle de 4 millions et demi.
Ça paraîtrait inimaginable qu'il soit le John McEnroe du couronnement de Charles III. Quoi.
Ça serait assez dingue si ça arrivait, parce qu'en fait ce serait un déclassement absolu. Il est fils de roi, il est le fils cadet du roi qui se fait couronner, et il se retrouve dans une cabine avec un casque en train d'expliquer, lui c'est mon oncle, lui c'est mon frère, ça c'est mon petit-neveu.
Bon,
ça,
on voudrait presque entendre, hein, pardon.
Bien sûr, mais en termes d'image, moi je pense que ça serait désastreux.
Oui, là, ce serait un peu la fin du monde.
Les festivités du couronnement dureront 3 jours, du 6 au 8 mai. Le programme a été dévoilé le 21 janvier dernier. Et on sent que tout a été fait pour mêler tradition et innovation. Côté tradition, le carrosse d'État vieux de 260 ans sera de retour. Les souverains y paraderont après le sacre. Jusque-là, tout va bien. Et côté innovation, Charles portera un uniforme d'amiral de flotte et non une culotte bouffante et des bas de soie. La chorale du couronnement réunira des malentendants, des réfugiés, des membres de la communauté LGBTQ+. Et les Anglais seront invités le lundi 8 mai, un jour de l'entraide. Le but est d'inciter chacun à faire du bénévolat et ça tient à cœur au roi Charles III. C'est important pour le roi d'imposer sa patte et d'être dans l'air du temps, de parler à tous les Britanniques.
Il a un vrai défi qui est de passer après 70 ans de règne quelqu'un qui a marqué les esprits, le siècle, le pays. Donc, et aussi de faire perdurer le job entre guillemets des rois et des reines, c'est de faire perdurer une institution qui les dépasse et dont ils ont hérité. Donc il faut que ça colle le plus possible à l'époque. L'époque était la difficulté en Grande-Bretagne, il en est le premier conscient, il passe son temps à voyager dans son royaume, entre guillemets, à rencontrer des associations, des entreprises, il fait des déjeuners aussi avec des gens de la société civile, bref. Donc il est vraiment très en avance sur le fait de partage, d'où l'idée de ce big, comment ça s'appelle, ce big help out, qui est donc la journée fériée, il suggère à tous ses concitoyens de participer à une action de bénévolat, à une action de charité ce jour-là. Et il veut aussi ouvrir au maximum, rendre transparent cette cérémonie qui avait, dont la dernière date de 1953, elle durait presque 4 heures. Il y avait des parties en latin qui étaient extrêmement compliquées. Alors on a imaginé à un moment peut-être les enlever, donc tout ça c'est encore en réflexion. Il y a cette fameuse canopée, logiquement il est oint par l'huile sacrée du Jourdain, puisqu'il est sacré par Dieu. Cette partie-là était totalement invisible, c'était une demande de la reine d'Angleterre lorsqu'elle a été couronnée pour la première fois en Mondovision. Charles, lui, imagine une canopée transparente qui ne serait plus tenue par des gardes royaux mais par des enfants de différentes communautés. Donc on est dans quelque chose de nouveau qui est à construire, qui doit marquer une évolution. Il veut une monarchie plus resserrée, qui coûte moins cher. On passe de 8000 à 2000 invités, donc ça va faire un peu moins de petits fours. Après, les places seront chères.
Est-ce qu'il va ressortir la Jaguar type E avec moteur électrique?
Moteur électrique qui fonctionne.
Ah bah oui.
Et qui fonctionne également aussi avec des croûtes de fromage, du vieux vin. Et il a fait construire tout un modèle et tout. Ah oui, non, c'est un grand.
Des croûtes de fromage.
Je vous promets, c'est vrai.
Ça va sentir.
Sur le site de Jaguar, vous avez toute une explication de texte là-dessus.
Pour revenir à l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, l'ancien employé donc d'Elf Aquitaine, je l'aurais appris ce soir, manque pas d'humour. Il a dit son stress à une de vos consoeurs britanniques avant de présider cette cérémonie bientôt.
Well, it's giving me nightmares already. You know, the normal sort of nightmares that I think two nights ago I dreamt I'd... we got to the point and I'd left the crown at Lambeth Palace. Now, how did I get the crown to Lambeth Palace? Since it's guarded by half the army, I've no idea. But I was looking around and the king was looking at me. You know, some nightmare. So it's obviously weighing on me quite a lot.
Et c'est donc lui qui devra donner son accord pour que, par exemple, l'onction soit télévisé et filmé pour la première fois.
Il est totalement en accord avec le roi Charles. On sait qu'il y a une très très bonne connexion. Pour la petite histoire, il est francophone et francophile. Il a une demeure en Normandie. Il se rend régulièrement en Normandie. Il est très, très ami avec la reine.
Il est incroyable.
Qu'ils viennent dîner.
Oui, on va y aller.
Qu'ils viennent dîner.
On le sait, les Anglais manifestent actuellement pour des hausses de salaire. Il y a des grèves qui se prolongent. Ils subissent vraiment l'inflation de plein fouet. Ça les amuse, vous pensez, d'imaginer un couronnement dont le budget va être considérable ou...
Oh, je pense qu'il y a quand même un attachement à la couronne qui fait que... C'est encore une fois un événement par siècle. Hein. Le dernier, vous le disiez, c'est 53. Donc, à mon avis, il y a des rencontres entre les deux univers, mais spontanément, les gens le séparent quand même. Leur interlocuteur pour les grèves et l'inflation, c'est Rishi Sunak, ses prédécesseurs calamiteux, au premier rang desquels Boris Johnson. Puis de l'autre côté, on a la royauté avec, justement, ça m'a frappé quand même, au moment de la mort de la reine, 4 milliards de téléspectateurs potentiels. Et alors, c'était très intéressant.
C'est la meilleure campagne de promotion, de pub pour l'Angleterre. C'est la meilleure campagne de oui. C'est un soft power monstrueux. Ça rapporte énormément d'argent parce que tout le monde va voir après les lieux ce qui sont passés. Pendant ce couronnement pendant ces obsèques qui ont été extrêmement longues, comme une dizaine de jours, le monde entier regardait, il y avait un épisode par jour, les audiences suivaient, les gens regardaient jusqu'à la cérémonie ultime, où en effet 4 milliards de téléspectateurs, mais sur les routes, alors que le pays était déjà en crise, était déjà en grève, avait déjà énormément de... On annonçait les premières difficultés en termes d'énergie, etc. Les Anglais étaient là, étaient dehors, ils ont fait la queue pendant des heures, la nuit, dans le froid, pour aller voir ce cercueil. C'est quelque chose qui dépasse, en fait, un petit peu le cadre du quotidien, et c'est dans ce sens-là où peut-être ils resteront fascinés, les problèmes seront là le lendemain. Le 8 mai, tout redeviendra normal. En revanche, pendant 3 jours, la force de la royauté est d'offrir quelque part un ailleurs. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on trouve que c'est un intérêt ou pas, mais ça reste une identité, ça reste leur histoire, ça reste leur patrimoine, et ça reste une force de frappe en termes d'image qui est extrêmement impressionnante.
Merci Jérôme Caron du magazine Point de Vue. Qui est à la une cette semaine ?
Charlène de Monaco, la princesse.
Ah oui, d'accord. Une autre princesse.
Une autre princesse.
Une autre princesse. Merci beaucoup. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Un ballon espion qui survole le territoire américain. Il est chinois, ce ballon.
Ouais, c'est une vidéo amateur qui a été vue par des dizaines de millions de personnes dans le monde, faite par un habitant du Montana aux États-Unis, un homme circonspect de voir un objet non identifié dans le ciel.
Well, hello everybody. I am sitting in my driveway here in Billings, Montana, and I have no idea what it is. It's been there stationary for about the last 35 minutes. I have no idea what this thing is. I hope it's in focus. And for those of you who think this might just be the moon, it is not the moon. The moon is off to my right. I can see it.
La circulation de cette vidéo sur les réseaux sociaux a contraint le Pentagone à communiquer hier soir tard. Les autorités américaines ont annoncé par communiqué qu'il s'agissait d'un ballon originaire de Chine, entré dans leur espace aérien depuis deux jours. Un engin placé sous surveillance par les services secrets avant la diffusion de la vidéo amateur. Il n'en fallait pas plus pour que les chaînes américaines passent en édition spéciale.
Breaking news, the US tracking a suspected Chinese spy balloon flying over the United States. And that balloon is the size of three buses.
Talking about the discovery of a giant balloon visible from the ground that has quickly turned into a national security concern tied to China.
This is a Chinese spy balloon conducting a surveillance of sensitive military sites.
It just seems provocative, and it happens, quite frankly, at the wrong time.
This is not a big gain in terms of surveillance, right, but it is in terms of audacity.
À l'ère des drones sophistiqués et des satellites, la présence d'un ballon dans le ciel pourrait surprendre. Mais les Américains ont pris très au sérieux cette menace en envoyant immédiatement des avions de chasse F-22 à son contact. Compte tenu de sa taille, comme vient de le dire la journaliste, trois bus, la taille de ce ballon, ils ont choisi de ne pas l'abattre pour le moment afin de ne pas courir le risque de blesser les habitants au sol. Un engin capable de voler à plus de 20 km de haut, bien au-dessus des vols commerciaux, et donc quasiment indétectable par les défenses antiaériennes. Selon un haut responsable du Pentagone, le ballon aurait pu capturer des images des bases américaines tout près de Billings, dans le Montana, qui abrite des silos de missiles nucléaires. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères semblait en tout cas gênée ce matin en tentant de justifier la présence de ce ballon sur le sol américain. Le pouvoir chinois a annoncé cet après-midi que le ballon servait à des opérations scientifiques et météorologiques, une version démentie par le Pentagone juste avant le début de l'émission.
The fact is, we know that it's a surveillance balloon, and I'm not going to be able to be more specific than that. We do know that the balloon has violated U.S. airspace and international law, which is unacceptable. And in terms of specific locations, I'm not going to be able to go into specific locations again, other than to say it's moving eastward at this time.
Actuellement, toujours aux États-Unis, ce ballon, dans le centre du pays. Un incident qui tombe au plus mauvais moment, car dimanche, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, devait se rendre à Pékin pour la première fois depuis octobre 2018. Il a annoncé le report de cette visite. Comment interpréter cette décision? Anaïs Recouli et Louis Amar ont posé la question à Xavier Pascaud, le directeur de la Fondation pour la recherche stratégique.
Le fait qu'on reporte ce voyage, c'est quand même assez inhabituel au plan diplomatique, ou en tout cas, c'est un signal très fort. Qui souligne la colère en fait, des États-Unis, qui donc, par le fait même, disposerait sans doute d'informations. En tout cas, c'est ce qu'il laisse entendre. Et là, on est vraiment dans le jeu diplomatique. Les États-Unis se saisissent un petit peu de cet événement pour rétablir un rapport de force, dans le rapport diplomatique, qui est très clair, quoi.
François, on connaît les relations François Langlais, on connaît les relations très complexes, très difficiles actuellement entre les États-Unis, entre Pékin et Washington. Aujourd'hui, ce ballon tombe au plus mauvais moment pour les relations diplomatiques entre les deux pays. Ça ne va pas arranger les choses.
Non, c'est vrai que sur tous les fronts, C'est la confrontation entre les deux géants. Et le ton monte, d'ailleurs, de façon très spectaculaire, depuis, en gros, depuis le Covid. L'argument chinois est quand même très curieux, quoi. Finalement, on a laissé partir ce ballon. Le Montana, ce n'est pas à côté de la Chine. Enfin, il faut quand même qu'il y ait une grosse dérive.
Non, mais
ils pensaient
que ça ne se verrait pas, surtout. C'est ça, moi, qui m'intrigue le plus.
Je pense que c'est exactement le point. Il y a fort à parier qu'ils savent que ça se voit et que c'est un message aussi de ce côté-là. C'est assez coutumier de leur façon d'être, notamment quand, dans un registre assez voisin, ils occupent les petites îles de mer de Chine pour installer des bases. Ils expliquent que c'est pour les pêcheurs, etc.
Non seulement ça se voit, mais en plus, il y a des satellites partout qui surveillent tous les points du globe et avec une précision de plus en plus grande.
Pas besoin d'un ballon, quoi.
Donc il n'y a pas besoin d'un ballon. Enfin, c'est bizarre.
C'est une sorte de provocation ou de message adressé.
Ça ne serait pas étonnant qu'il y ait une forme de message pour justement montrer un peu les dents quand même. Ce qui est étonnant, c'est que ça se passe juste avant la visite de Blinken. Ça veut probablement dire qu'il ne souhaitait pas que Blinken vienne à ce moment-là.
Et en fin d'après-midi, le Canada a déclaré qu'un autre ballon survolé...
Il y en a deux maintenant.
Oui, il y en a deux désormais.
D'accord.
Au Canada.
C'est un congrès.
Un congrès de ballons dans les airs. Tout de suite, c'est le 5 sur 5 de Mathieu Pelliard. Mathieu, à la mi-journée, on a appris la mort de Paco Rabanne.
Je fais des vêtements simples dans des matières bizarres, disait le couturier qui a marqué la mode de la fin du XXe siècle et fait les beaux jours aussi de la parfumerie. Écoutez-le parler de la mode, son métier. On est à l'aube des années 70.
Je crois que tous les métiers sont valables, ont une raison d'être. Et la mode m'a intéressé par ce côté justement extérieur, symbolique. La mode n'est que symbolique extérieurement. Il m'est arrivé de faire des vêtements anti-mode, de faire des vêtements... très spéciaux avec des formes, des couleurs particulières pour voir la réaction sur les femmes, pour l'éprouver sur les femmes. Et ça a marché. Vous ne pouvez pas savoir comme certaines formes, certaines couleurs déclenchent des phénomènes d'acceptation, de refus chez un être.
Né en 1934 au Pays Basque espagnol, c'était le fils d'une femme qui travaillait pour le couturier Cristobal Balenciaga, le fils d'un colonel du roi d'Espagne fusillé par les franquistes. Paco Rabanne, sa mère, ses frères et ses sœurs fuiront vers la France à pied. Il est encore enfant. Outre la mode, Paco Rabanne éditera de la musique, lancera une revue, dirigera des clubs. Mais on le connaît aussi pour ses prédictions, ses prophéties farfelues. En 1999, il annonçait que la station spatiale Mir s'écraserait sur Paris au moment de la grande éclipse solaire.
Il y a deux ans, j'ai eu des flashs incroyables et je croyais, moi, qu'une comète, quelque chose d'enflammé allait venir sur Paris.
Tombant
du ciel, ouais. Parce que les Gaulois ont toujours eu peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ouais. Et c'était pour moi une prémonition. Et je me suis aperçu en parlant avec un chercheur du CNRS, qu'en 99, rien ne tombait du ciel, à part peut-être Mathilde, lui, Mir. Et Mir, Mathilde, dans Mir, il y a du plutonium, et il me dit peut-être une pile atomique ou pire.
On connaît la suite de l'histoire. On disait Paco Rabanne, amoureux de la Bretagne, il est mort chez lui, dans le Finistère, où sa famille s'était réfugiée en 1939, où il se cacha également de la Gestapo. Il avait 88 ans.
Édouard Philippe veut dédramatiser son alopécie.
C'est une histoire de poils, ce n'est pas grave, dit-il. Vous allez l'entendre. L'ancien Premier ministre, maire du Havre, est revenu sur son changement d'apparence. Il a fait le choix d'y aller franchement, de parler de son alopécie. C'était hier soir sur BFM TV.
Qu'est-ce qui m'arrive ?
Expliquez-nous.
Voilà ce qui m'arrive.
Vous avez perdu vos sourcils.
J'ai perdu mes sourcils et je crois qu'ils ne reviendront plus. Et ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu et mes cheveux tombent aussi.
La moustache aussi.
Oui, la moustache est partie. Je ne sais pas si elle reviendra, mais ça m'étonnerait. Une alopécie, c'est quelque chose qui peut se déclencher très jeune ou très vieux, que c'est une perte de la pilosité, que ça n'est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave, que j'en souffre à 52 ans. Il y a des gens qui sont frappés d'alopécie, ils ont 15 ans. Un adolescent, une adolescente frappée d'alopécie à 15 ans, c'est pas du tout la même histoire. C'est facile pour moi, j'ai de la chance. Pour elle ou pour lui, c'est une toute autre histoire. Une toute autre façon de voir le regard porté par les autres sur soi-même.
Ainsi, sans doute que les Français en savent plus sur l'alopécie. On a rarement parlé de cette maladie. On a pu l'évoquer récemment au sujet de l'actrice Jada Pinkett Smith aux États-Unis, par exemple. Elle en souffre, la femme de Will Smith. C'est d'ailleurs après une blague à ce sujet, vous vous en souvenez forcément, que l'acteur avait asséné une gifle à Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars il y a un an. Mais au-delà de ces célébrités, l'alopécie, c'est une maladie auto-immune. Les symptômes sont la perte de pilosité. Elle touche 60 à 120 000 personnes par an en France. Et comme le disait le maire du Havre, ce n'est pas toujours facile à vivre pour les plus jeunes, notamment. Louis et Audrey Payas sont allés interroger l'association La Tresse qui s'occupe de femmes atteintes d'alopécie et qui se réjouit qu'Edouard Philippe en ait parlé librement.
Il est vrai que une femme, notamment, qui souffre d'une perte de cheveux, va avoir tendance à la cacher. Donc, il y a toujours cette volonté de masquer ce type de différence dermatologique. Hein, ça peut être aussi des problématiques de peau, pour ne pas susciter de curiosité ou d'interrogation. De pouvoir avoir un exemple, quel qu'il soit, qu'on soit en adéquation ou non avec ses idées politiques, peu importe, mais qu'il puisse porter un message d'ouverture d'esprit sur une différence physique est tout à fait positif. Pourvu que toute personne public puisse aborder avec autant de courage des problématiques qui sont soi-disant intimes, mais qui devraient devenir beaucoup plus générales et publiques.
Il reste le changement d'apparence frappant d'Edouard Philippe. Le stress est une cause possible. Oui, j'ai une vie stressante, évidemment, concède-t-il. L'alopécie ne m'empêche pas d'être extrêmement ambitieux pour mon pays, dit également l'ancien Premier ministre. Un homme politique qui change ainsi d'apparence qu'il assume. Nous avons voulu interroger un spécialiste de la communication politique. Alors, beaucoup moins sur le plan sanitaire, bien sûr. Philippe Moreau-Chevrolet, pour qui Edouard Philippe fait bien d'en parler.
Édouard Philippe, c'est un homme politique qui est en train de perdre son visage. Le visage, c'est très important parce que c'est ce que les gens voient sur les affiches, c'est ce qu'on perçoit en premier d'un homme politique. C'est comme ça que la confiance se crée. C'est comme ça qu'on aime ou qu'on déteste quelqu'un, finalement, assez intuitivement, rapidement. Ça change le rapport aux gens quand vous perdez vos sourcils, vos cheveux et quand vous avez l'air malade. Donc oui, il fallait qu'il en parle pour d'abord rassurer sur son état de santé. Le problème, c'est que là, pour la présidentielle, on cherche un super-héros. On cherche un homme providentiel, on cherche quelqu'un qui est complètement lisse, qui n'a pas de faille. Là, il devient un homme politique différent, avec un problème. Et ça peut être une vulnérabilité aussi, pourquoi pas, intéressante à expliquer en termes de communication.
La côte de Gironde est une illustration du changement climatique.
Oui, la commune de Soulac-sur-Mer, au bord de l'eau, comme son nom l'indique, à 2 heures de route de Bordeaux, à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde. Aujourd'hui, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, s'est rendu sur place pour la démolition de l'immeuble Signal, édifice des années 60. La promesse à l'époque d'une résidence faisant face à l'océan, un petit coin de paradis qu'il a fallu vider de ses habitants il y a une dizaine d'années. L'immeuble Signal menacé par l'érosion de la dune.
Il y a au travers de ce qui se passe aujourd'hui une vision liée au réchauffement climatique de ce que la montée des eaux, l'érosion du trait de côte va projeter dans plein d'autres endroits du littoral français. Il y a jusqu'à 50 000 habitations, logements, jusqu'à 750 entreprises qui vont être concernées à un titre ou à un autre, des dizaines de kilomètres d'infrastructures qui vont être d'ici la fin de ce siècle concernés par cette érosion du trait de côte.
Les habitants ont dû attendre des années pour se voir indemnisés. À 70% de la valeur d'origine des appartements, une enveloppe de 7 millions d'euros avait été débloquée. C'était monté jusqu'à l'Assemblée nationale pour cela. C'est la fin d'un rêve avorté de vacances ou de retraite face à la mer. Regardez cette archive de 1963. On est avant la construction de l'immeuble Signal. On rêvait alors à de grands projets d'immobilier au bord de mer, à Soulac-sur-Mer.
Le président de l'Assemblée nationale devait s'effacer devant le maire de Bordeaux pour admirer, en connaisseur, ces magnifiques réalisations municipales et en particulier ce front de mer, promenade agréable et d'où l'on jouit d'une vue unique sur l'océan. Une raison de plus pour aller y passer ses vacances. À l'issue de sa visite, M. Chaban-Delmas devait exprimer ses félicitations à M. Pinta. Ce que j'ai vu, a-t-il dit, est le présage d'une belle expansion pour Soulac et laisse prévoir les réalisations de demain.
En 60 ans seulement, la multiplication des tempêtes, l'érosion ont eu raison de ces projets. Les aménagements n'y ont rien fait. Écoutez, ces anciens habitants de l'immeuble Signal et autres habitants soulacais qui ont vu l'océan se rapprocher et rattraper la dune.
Qui pouvait prévoir que, en moins de 50 ans, entre 40 et 45 ans, la mer allait monter à cette vitesse fabuleuse? J'ai dit en 2014 qu'on était, ça y est, les premiers réfugiés climatiques de France.
La mer était à peu près à 200 mètres.
là, à l'ouest, là, ici. Petit à petit, j'ai vu aussi la dune se rétrécir jusqu'à ce que la dernière tempête, il était mis en péril. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison que ça continue pas.
Vous voyez les bunkers qui sont là-bas, qui sont dans l'eau. Ils étaient au sommet de la dune et vous marchiez depuis la route, autant pour aller au bunker que du bunker pour aller vous baigner. Je crois que les vrais soulaqués sont vraiment très très contents de voir cette verrue, parce que tout le monde l'avait surnommée la verrue, disparaître.
Patrick.
Non, simplement pour faire remarquer que l'érosion des côtes a commencé bien avant le changement climatique. C'est une bataille de décennie en décennie. Ça s'est aggravé ces dernières années, c'est vrai, mais voilà, il y a... Voilà. Et puis, il faut se féliciter aussi du fait que ça devait être la grande motte. Hein. C'était le signal, c'était le premier immeuble d'un grand ensemble qui devait être bâti. Heureusement, ça s'est arrêté et il n'y a pas eu d'autres...
Ça s'est arrêté parce que le promoteur de l'époque avait fait faillite.
Absolument.
Pour d'autres raisons, pour le coup.
Oui, mais enfin, ça va coûter cher si le fait que le littoral soit grignoté au fil des années.
5500 km de littoral, la France.
Oui, avec des indemnisations à chaque fois à verser.
Qui sont d'ailleurs, alors, 70% pour celui qui ne touche que ça, c'est pas énorme, mais pour la collectivité, évidemment, c'est lourd. Et j'ai fait la même observation que Patrick. Je vois ça dans une région que je connais bien, la Côte d'Opale, où le littoral recule depuis que je le connais, c'est-à-dire un bon demi-siècle.
Un sommet européen à Kiev aujourd'hui.
Accompagnée du président du Conseil européen et de 15 commissaires, la présidente de la Commission européenne s'est rendue à Kiev aujourd'hui. Un symbole que ce sommet dans un pays en guerre, symbole encore plus fort que le thème de ce sommet. L'entrée prochaine en discussion désormais de l'Ukraine dans l'Union européenne. Mais pour l'heure, le président Volodymyr Zelensky a bien sûr rappelé son besoin de renforts matériels.
Si elle sera plus rapide, et surtout une longue-bille, ми не тільки не відійдемо від Бахмуту, ми почнемо деокупувати Донбас, який був окупований з 2014 року.
Vous avez peut-être remarqué la carte derrière le président ukrainien, l'Union européenne, l'Ukraine dans ses frontières. Vous allez entendre la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. Bruxelles redit le soutien de l'Europe à Kiev.
The perpetrator must pay and must be held accountable. We are together in collecting the evidence of the war crimes. We have the prosecutors now in place. We are discussing what kind of institutional setup is necessary.
We will be right by your side to rebuild a modern, prosperous Ukraine. Ukraine is the EU. The EU is Ukraine. Let's make it happen. Slava Ukraini, vive l'Europe. Merci.
François Langlais, au-delà du symbole et du soutien, bien sûr, de Bruxelles à son voisin agressé, si on garde la tête froide, est-ce que l'Ukraine peut vraiment entrer dans l'Union européenne ?
Ça me paraît aventureux. Juste, d'abord, des décisions d'exception ne sont pas souhaitables à aucun moment. Et puis, l'Union européenne n'est pas une alliance stratégique, une alliance militaire, c'est autre chose. Donc, que le destin de l'Ukraine soit de la rejoindre à moyen terme, très bien, mais ça se mesure. Il y a des procédures pour ça, à la fois le respect de la démocratie, de l'économie de marché, d'un certain nombre de fonctionnements qui, aujourd'hui, sont absolument impossibles à évaluer. Donc, qu'on soutienne l'Ukraine, évidemment, et ça a été dit de façon très claire, l'adhésion, c'est un autre sujet, ne les confondons pas.
Merci beaucoup François Langlais. Je rappelle votre ouvrage Rien ne va, mai 2023, l'année qui peut nous sauver. 2023, c'est l'année du couronnement de Charles III. Merci beaucoup Jérôme Caron de Point de Vue avec la princesse Charlène à la une. Dans un instant, un hommage à Simenon. On célèbre le 120e anniversaire de sa naissance. Une pléiade d'invités pour en parler. Le Vu, l'œil de Pierre, Simenon au Festival de Cannes. Et les actualités de Bertrand. Est-ce que j'ai rien oublié ?
Non,
tout y est. Et le dernier point cuisine de Loïc Lhermière. Chef à être tard. On vous attend, on est là jusqu'à 20h55. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.